cette offre.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous lire d'abord une des notes d'Émile Méry. Je vous laisse ce qu'il écrivait en 1927. Dans le dénuement de l'après-guerre, à un moment où les psychoses de guerre n'étaient pas éteintes, on ne pouvait espérer réaliser une vaste coalition économique qui aurait eu à écarter tout ce que le passé nous avait légué d'artificiel et qui graduellement aurait ramené l'économie à son état normal. On s'est borné à exprimer des désirs et des espoirs, à tâtonner sans résultat. En face des difficultés du moment, toutes les nations, sans voir plus loin que leur présente, se sont inspirées de considérations égoïstes et n'ont eu... Est-ce que le micro marche ? En face des difficultés du moment, toutes les nations, sans voir plus loin que leur présente, se sont inspirées de considérations égoïstes et n'ont eu que leurs intérêts particuliers et immédiats, sous la poussée de leurs opinions publiques, c'est-à-dire de l'opinion des masses, réclamant et exigeant de leurs chefs politiques des remèdes à leurs privations et à leurs souffrances. La conviction allait en même temps grandissant qu'au lieu de s'en rapprocher, on s'écartait de la vraie voie de la paix économique et que d'autre part, cependant, cette paix économique était la condition préalable de l'apaisement mondial. De cette conviction sont nées toutes les tentatives et les nombreux projets visant à aplanir les divergences économiques résultant d'une réglementation artificielle de l'économie depuis des siècles. Bien, ce constat mélancolique d'Émile Mérich vers le milieu de l'entre-deux-guerres est, je crois, étonnant. Il évoque, il préfigure même, en effet, la constatation que feront cette fois, au lendemain du Second Conflit mondial, les promoteurs de l'idée européenne, ceux que l'on appelle communément les pères de l'Europe, Schuman, Monnet, Joseph Beck, le luxembourgeois, d'autres encore. Chez ces grands personnages, même conscience de l'importance des facteurs économiques, même désolation devant le spectacle offert par les nations du vieux continent, gâchant leurs meilleures chances, faute d'esprit d'organisation, même résolution enfin de s'attaquer aux racines du problème et concrètement de créer entre les pays de l'Europe ces solidarités de fait que Robert Schuman appellera explicitement de ses voeux dans sa déclaration historique du 9 mai 1950 qui avait été préparée par Jean Monnet et qui, amorçant l'aventure de la communauté européenne du charbon et de l'acier, constituera le point de départ de la construction européenne. L'idée de ces solidarités de fait, il faut le souligner, était précisément celle de Mayrisch qui écrivait, toujours en 1927, pour aboutir, c'est-à-dire pour supprimer dans toute la mesure du possible les tensions économiques entre les nations, il faut envisager, dans les grands cadres de la production, la création de communautés d'intérêt complètes caractérisées par l'interpénétration des capitaux engagés. Sans affirmer que les formes mêmes doivent être nécessairement identiques, une condition indispensable de succès serait que de telles organisations s'inspirassent non du seul intérêt du producteur, mais de l'intérêt général. Ce n'est qu'ainsi que pourra se justifier l'emprise des forces économiques dans le domaine politique, car ainsi seulement cette emprise pourra exercer une action apaisante et avoir une influence durable et efficace sur les rapports internationaux. Alors, qui était donc Émile Mérich, dont le nom, il faut bien le dire aujourd'hui, est assez oublié, même quand on consulte les histoires de la construction européenne. L'homme était étonnant, à la fois par son parcours, par ses conceptions résolument novatrices et non conformistes. Il était né à Eck, au Luxembourg, le 10 novembre 1862. Il était le fils d'un médecin, issu lui-même d'une longue lignée de praticiens. Mais par sa mère, il appartenait à une famille de maîtres de forge, les Metz, qui, à la fin du XIXe siècle, avaient en réalité introduit la grande industrie sidérurgique au Luxembourg. très tôt, il s'était écarté d'emblée de la tradition familiale maternelle et il manifesta tout de suite son désir de faire carrière dans l'industrie, comme ses autres ancêtres. Mais il manifesta aussi son originalité en complétant ses études d'ingénieur à Aix-la-Chapelle par des recherches très poussées en économie politique. Très vite, il entre donc dans l'entreprise familiale établie à Dudelange et il brûle les étapes. En 1893, à 30 ans, il est déjà responsable de la scierie et se montre bien décidé à faire bouger les lignes, plus manager, si je puis employer cette expression ici, qu'ingénieur. En vérité, il entend transformer l'entreprise de fond en comble et y introduire des méthodes véritablement scientifiques. Il montre aussi l'exemple en proposant d'abandonner son traitement contre un pourcentage sur les ventes. Certains le traitent de fou, mais d'autres le remarquent, en particulier le fils du président de la Société Générale de Belgique, Gaston Barbançon, principal actionnaire de l'entreprise, qui, venu inspecter l'usine de Dudelange, découvre, au fil de cette visite, une personnalité qu'il qualifie de fabuleuse et décide de lui accorder tous les crédits dont il a besoin. Sur cette lancée, Émile Mériche, en 1911, réalise, c'est la grande date de sa vie et même de l'histoire du Luxembourg, la fusion des aciéries de Burbach, d'Eck et de Dudelange sous le nom de l'Arbed. Il en est le directeur général technique et en réalisant cette concentration horizontale, Mériche évidemment a frappé un grand coup. Désormais, son destin et même son nom vont se confondre avec la vie de l'entreprise emblématique du Luxembourg. Étonnamment dynamique, le personnage surprend par son allure et parfois par son comportement. Il était petit, assez laid, avec des jambes trop courtes, assez corpulent. Il était habillé très bizarrement, avec des culottes s'arrêtant aux genoux, et il arborait en général des lavalières multicolores, tenue assez curieuse pour un grand chef d'entreprise. Et dans les manifestations de charité, il se faisait remarquer en distribuant des louis d'or que portait son secrétaire. Une telle conduite, évidemment, déconcertait parfois, mais l'homme, malgré tout, était très respecté, à la fois en raison de ses dons de gestionnaire, qui étaient évidents, et bientôt par sa hauteur de vue et son désintéressement. Ses dons de gestionnaire, Mériche les montra si bien qu'en quelques années, sous sa direction, l'Arbed devint une immense entreprise, très moderne, employant quelque 60 000 personnes. Il devait en devenir le président de la direction, c'est le titre exact, en 1920. Mais malgré l'envergure de l'entreprise dont il avait la charge et la diversité des préoccupations qu'elle entraînait, de nouveaux projets jaillissaient sans cesse dans le cerveau d'Émile Mériche. L'homme voyait au-delà de la firme dont il avait la charge, au-delà même au-delà de la branche d'activité qui était la sienne, au-delà même du petit pays où il était né et dont il était devenu l'une des personnalités les plus prestigieuses et les plus respectées. Mériche, en réalité, avait une âme de philanthrope, et plus le temps passa, plus les problèmes d'intérêt général le passionnèrent. Avant d'autres grands chefs d'entreprise, il avait d'abord senti la nécessité d'organiser la production et la vente de produits afin de réduire une des principales causes du malaise qui, depuis la fin de la guerre, troublait les rapports économiques et politiques des nations européennes. En 1921, on crut un instant qu'une entente telle qu'elle existait avant la Grande Guerre, avant celle de 14, pouvait s'établir entre Français, Britanniques, Allemands, Belges et Luxembourgeois. Mais les pourparlers traînèrent et bientôt on vit surgir des divergences telles que la perspective d'un accord s'éloigna. En réalité, entre les métallurgistes allemands et leurs anciens adversaires, la défiance était telle que rien ne pouvait aboutir. Mériche le vit très bien et s'employa sans tarder à faire cesser cette incompréhension. Sa qualité de neutre, sa formation, ses relations, le charme de sa personnalité, tout le destinait au rôle de médiateur dans lequel il excella. Sans jamais se lasser, il faisait valoir les avantages d'une production disciplinée, neutralisait les inquiétudes, proposait des solutions. Ces efforts devaient aboutir en septembre 1926, quand il put réunir au siège de l'Arbed à Luxembourg les métallurgistes allemands, français, belges et luxembourgeois pour la constitution de l'Entente internationale de l'acier sur la base d'un contingentement de la production. Naturellement, chaque pays concevait l'Entente internationale de l'acier à sa manière et en fonction de ses intérêts propres. La France attend essentiellement une diminution de la capacité exportatrice de l'Allemagne par le biais d'une réglementation de la production. Mais des craintes s'expriment. Les socialistes dénoncent le triomphe du capitalisme et réclament même un contrôle de l'Entente internationale de l'acier par la Société des Nations. En Belgique, où est forte la crainte de la capacité allemande d'exportation, le soulagement est en revanche visible, perceptible. Tous les problèmes ne sont pas réglés, loin s'en faut, mais réélu à la tête de l'Entente internationale de l'acier en 1926, Mérisch déborde d'optimisme, de résolution surtout. Notre vieux continent ordonne ses forces jusqu'alors dispersées et hostiles, et Luxembourg est le dernier club des Européens qui veulent la paix. Mais ce patient travail de rapprochement accompli dans une perspective purement économique avait révélé à Émile Mérisch la profondeur des divergences politiques entre Français et Allemands. L'ignorance réciproque suscitait de sérieux obstacles à l'assainissement des relations entre les deux peuples depuis si longtemps opposés par l'histoire. C'est ainsi, grâce à Mérisch, que les entretiens qui avaient conduit à la naissance de l'Entente internationale de l'acier ne demeurèrent pas confinés au seul terrain des marchandages et des calculs. Les discussions prirent de l'ampleur et se hissèrent rapidement à un plan plus général. Peu à peu naquit ainsi dans l'esprit d'Émile Mérisch l'idée de réunir des savants, des hommes de lettres, des économistes, des artistes et des industriels susceptibles par leur réflexion commune de s'attaquer aux racines du malentendu franco-allemand en multipliant les contacts directs. Par sa position personnelle, Émile Mérisch était bien placé pour servir de trait d'union et d'animateur entre ces hommes. Il faut souligner que dans cette tâche, il faut aussi puissamment aidé par son épouse, Néaline de Saint-Hubert, très active dans le domaine des œuvres sociales et philanthropiques, Madame Mérisch devait développer en effet une activité personnelle dépassant très largement le simple mécénat des gens fortunés. Très cultivée, affirmant des goûts artistiques marqués, ne pouvant dissimuler une inextinguible angoisse métaphysique, elle apparut à son ami André Gide une pathétique personnalité tendue vers une perfection inaccessible. Elle devait être, en tout cas, l'âme de la belle maison de Kaulbach, où habitait le couple au Luxembourg, et où défila toute l'élite intellectuelle de l'Europe de l'époque, de Walter Rathenau à Jacques Rivière, de Curtius à Jules Romain, Jaspers, Hermann de Kesserling, Jean Guéhenno, Paul Claudel, Jean Schlimberger. Dès 1926, avant même, en fait, la constitution de l'Entente internationale de l'acier, fut mis sur pied un comité franco-allemand d'information et de documentation composé de deux sections, l'une française, l'autre allemande, placées toutes deux sous la présidence d'Émile Mérisch. Du côté français, le comité comptait environ 30 personnalités, parmi lesquelles l'ambassadeur Charles Laurent, président de la Société du Canal de Suez, le duc de Broglie, Arthur Fontaine, président du Bureau international du travail, Jean Schlimberger, Henri Lichtenberger, professeur à la Sorbonne, André Siegfried, Vladimir d'Ormesson notamment. Du côté allemand, on notait la présence de Curtius et aussi, il faut bien le dire, un personnage plus controversé qui était Franz von Papen. Le comité français était animé par un jeune avocat français, Pierre Viennot, qui devait devenir d'ailleurs le gendre d'Émile Mérisch et menait une très brillante carrière. Il fut en effet secrétaire d'État de Léon Blum. Il rejoignit l'un des premiers la France libre. Il fut le représentant de la France libre, une sorte d'ambassadeur de la France libre auprès du gouvernement britannique. Et il devait mourir prématurément et brutalement peu après le débarquement de juin 1944. L'activité des deux organismes, celui de Paris et celui de Berlin, consistait essentiellement à essayer d'assainir l'information, donc à lutter contre les erreurs flagrantes ou les informations tendancieuses qui, de part et d'autre, contribuaient à creuser le fossé entre les deux peuples. Le comité, en liaison avec les journalistes intéressés, devait aussi s'assigner la tâche de faire mieux connaître l'Allemagne à la France et réciproquement. L'originalité du comité, fondé par Émile Mérich, était surtout sa méthode de travail. Les obstacles psychologiques entravant l'appréciation objective de beaucoup de problèmes, Mérich avait posé pour principe l'égalité et la réciprocité absolue dans le fonctionnement de ces deux comités. Le comité cherchera, par un travail en commun, à éliminer les malentendus naissants et à promouvoir une appréciation plus objective des divers problèmes franco-allemands. Ce n'est évidemment pas l'objet de ce colloque de rappeler en détail les interventions de cet organisme singulier et original. Il suffit de souligner qu'il eut une activité nourrie jusqu'à la fin des années 1930. Il ne devait malheureusement pas résister à la crise de 1929 et à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il n'est pas indifférent de savoir, malgré tout, qu'au moment de la dernière réunion du comité franco-allemand, le 17 mai 1930, Briand avait remis aux 27 gouvernements des États européens, membres de la Société des Nations, un mémorandum bien connu sur l'organisation d'un régime d'Union fédérale européenne. On sait que ce projet, à peine communiqué, se heurta à une farouche opposition et d'aucune suite immédiate. Émile Mérich, de toute façon, ne vit pas l'écroulement de son rêve. Le 5 mars 1928, près de Chalon-sur-Marne, il fut victime, en effet, d'un accident de voiture et tué sur le coup. L'homme, j'espère l'avoir suggéré, était à tous égards exceptionnel. On ne pouvait rencontrer d'esprit plus libre de préjugés que le sien, dira son ami Jean Schlumberger, dans le bel hommage qu'il lui a rendu. Les mots, les conventions, les usages, les écrans qui cachent la réalité, il les écartait avec une indépendance absolue. Il est facile au philosophe, en sécurité dans son cabinet, de remuer des pensées hardies, propres à ébranler tout l'édifice social. Il est beaucoup plus rare de trouver ces hardiesses chez un homme d'action, chez un constructeur. Or, elle n'était nullement pour Émile Mérich un jeu de dilettante. Il prenait les idées au sérieux, chargé de toutes leurs conséquences pratiques. Lui, si ferme dans sa conduite, il n'avait aucune peur de voir discuter, mettre en doute les certitudes traditionnelles de la société bourgeoise, de la famille, de la morale. Il défendait son point de vue avec une conviction pleine de jeunesse, mais sans parti pris. Il savait que les cadres dans lesquels nous vivons, ceux du capitalisme par exemple, vieilliront et changeront comme tout ce qui est humain. C'était un spectacle qui ne manquait pas de grandeur, concluait Schlumberger, qui ne manquait pas de grandeur que de voir envisager si calmement les idées de demain, malgré toutes les menaces qu'elles contiennent pour notre équilibre d'aujourd'hui. En dépit de son envergure évidente, Émile Mérich, il faut le répéter, reste très, très mal connu. Lorsque l'on évoque la préhistoire de la construction européenne, on évoque plus volontiers les noms de grands politiques, comme Aristide Briand, et puis plus tard Churchill et les hommes qui l'ont entouré au congrès de La Haye de 1948, qui pourtant entendaient rester dans un cadre plus classique. Mérich, lui, reste un peu dans l'ombre, et l'on ne peut après tout s'en étonner, puisqu'il n'a jamais voulu attirer l'attention sur lui, préférant un travail en profondeur au feu de la rampe. Et en revisitant à votre invitation son étonnant parcours, j'ai été malgré tout frappé par la similitude de sa démarche avec celle d'hommes comme Monet et Schumann. Je ne crois pas qu'il ait existé beaucoup de liens en vérité entre eux, au moins directs. À l'époque d'ailleurs où Mérich œuvrait en faveur de l'Europe à Luxembourg, Monet se consacrait à d'autres problèmes. Il avait quitté en 1923 son poste de secrétaire général adjoint de la Société des Nations, déçu par l'impuissance de l'institution, dépourvu de tout moyen de faire appliquer ses décisions. Autant qu'on le sache, ce qui se passait à Genève ne le passionnait guère, et il avait même, semble-t-il, tendance à voir dans l'action de Briand d'abord de belles envolées lyriques non suivies d'effets. Monet, en réalité, ne commença à s'intéresser véritablement à l'Europe que pendant la guerre, lorsqu'il lui fallut imaginer, avec d'autres, comme Spaak, l'avenir du vieux continent qu'il souhaitait voir purgé de ses vieux démons. Il me semble tout de même que des liens objectifs existent entre encore une fois, entre Mérisch et les promoteurs de l'idée européenne. L'idée de mettre l'accent sur les réalités économiques, de les utiliser, de les canaliser dans une certaine direction favorable à la paix et à l'Europe, est évidemment commune. Ajoutons qu'il y avait de la part de ces hommes la même absence de préjugés, la même hardiesse dans la démarche. Sur les choses et les idées, ils portaient le même regard libre. Et il faut ajouter que c'était également qu'il y avait également de la part de Mérisch et de ceux qui ont repris en quelque sorte le flambeau, le même désintéressement. Mérisch, comme ses continuateurs, n'était pas prisonnier d'un clan, d'un milieu, bien au contraire. La notion d'intérêt général revenait sans cesse dans sa réflexion et lui donnait tout son sens en prêtant la plus grande attention aux réalités sociales. Si l'on met maintenant en perspective les projets respectifs d'Émile Mérisch et des promoteurs de la construction européenne du début des années 1950, on ne peut, me semble-t-il, qu'être frappé par la continuité et la complémentarité de ces démarches. En mettant sur pied en 1926 l'Entente internationale de l'acier, Mérisch avait évidemment réussi à substituer à l'arbitrage des armes une entente industrielle attachée à promouvoir, au-dessus des frontières nationales et du feu de la concurrence, l'émergence d'un intérêt commun. L'exploit n'était pas mince, mais Émile Mérisch, comme l'attestent les notes qu'il a laissées, avait dû convenir que s'il était parvenu à créer les conditions d'un armistice industriel européen et international, il n'avait pas malgré tout réussi à réunir celle d'une paix durable et véritable. Il avait même très lucidement perçu que son échec tenait à deux raisons principales. De nature exclusivement privée, les ententes qu'il avait réussi à faire naître n'atteignaient pas un degré d'intérêt public commun qui eût engagé en réalité les nations concernées à se départir d'une sorte de droit de veto. Sur toute la politique d'ensemble restait ainsi suspendue une sorte d'épée de Damoclès. D'autre part, ces ententes n'avaient pas, du propre aveu d'Émile Mérisch, n'avaient pas pu faire aux ouvriers, aux utilisateurs et aux consommateurs la place qui aurait dû leur revenir dans une participation adéquate à la gestion du patrimoine économique, industriel et social européen. En définitive, Mérisch avait dû constater que son entreprise se heurtait aux mêmes obstacles que ceux rencontrés par la Société des Nations. En amenant les Européens, et d'abord les Français et les Allemands, à transformer les enjeux de leur guerre, les bassins du charbon et de l'acier, en foyer de réconciliation entre ennemis héréditaires, le plan Schuman tira la leçon de ses échecs passés. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement d'une entente privée entre producteurs, mais d'une communauté d'intérêts publics unissant tous les Européens dans l'espoir qu'ils cherchent désormais ensemble la voie de l'intérêt commun et qu'ils agissent en conséquence. À bien des égards, ce qui a été entrepris au début des années 50 apparaît donc comme la continuation et l'approfondissement de l'œuvre entreprise quelques années plus tôt par Mérisch. En choisissant Luxembourg pour fixer le siège de la première communauté européenne, celle du charbon et de l'acier, les pères fondateurs, les pères de l'Europe, en ont sans doute eu l'intuition, donnant ainsi toute sa signification à l'image de Paul Desjardins, évoquant la propriété de Kaulbach, la propriété des Mérisch, petit noyau de la future Europe. Je vous remercie.